Bonjour bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce et nous voulons profiter de cette grâce pleinement pour recevoir le message du Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur et prier pour que sa parole puisse nous transformer, nous changer au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu fidèle. Nous voulons, Seigneur, être transformés à l'écoute de ta parole, Seigneur. Viens nous parler, révèle-toi à nous, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, au nom de Jésus. Que toute incrédulité, que tout orgueil, Seigneur, qui nous empêche de recevoir ta parole soit chassé de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Josué au chapitre 2. Dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, se manifester, il y a des Bibles à disposition pour nous permettre de lire. Josué au chapitre 2. À partir du verset 1er. Alors, le thème de notre partage ce matin, il s'agit d'une femme. Ce texte que nous allons lire parle d'une femme qui s'appelle Rahab. Et le titre que nous avons donné à notre partage, c'est Rahab, une prostituée sauvée. Nous lisons pour comprendre. Josué, verset 1er, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays et la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, de ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne le trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et leur racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tous les habitants du pays. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Alors, c'était un peu long comme lecture, mais il était important de lire toute l'histoire. Alors, on nous parle d'une femme qui s'appelle Rahab. Et on dit que cette femme était prostituée. Et comme sa maison était sur la muraille, et en tant que prostituée, elle accueillait tout le monde. Et c'est ce qui se passe avec elle ici. Elle accueille 2 espions qui viennent du peuple d'Israël parce qu'ils étaient en guerre. Israël était en guerre contre Jéricho. Et cette femme qui est prostituée arrive à bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu sauve une femme de mauvaise vie. C'est ça le thème de notre partage. Rahab, une prostituée sauvée. Vous savez, on ne dit pas ce qui a fait que Rahab devienne prostituée. On ne nous dit pas cela. Mais vous savez, en méditant ce passage, je me disais que ce n'est pas le rêve d'une jeune fille, d'une petite fille, d'un jour tomber dans la prostitution pour pouvoir survivre. Ce n'est pas le rêve d'une fille de se retrouver à vendre son corps pour vivre. Non, il y a des raisons à cela. Il y a des explications à cela. Il y a un début à cela. Il y a un commencement à cela. Peut-être a-t-elle rencontré, est-elle tombée sur le chemin de quelqu'un qui a peut-être abusé d'elle? Peut-être est-elle tombée sur le chemin de quelqu'un qui a fait des promesses? Peut-être est-elle tombée sur le chemin qui l'a utilisée? Vous savez, je me suis renseigné un petit peu, voir le témoignage, écouter le témoignage d'une Américaine qui raconte comment elle est tombée dans la prostitution. Elle dit que c'était une petite fille qui avait ses rêves, qui avait ses aspirations, qui avait ses projets. Mais elle dit qu'elle est née dans une famille où il y avait de la violence. Elle dit les seuls moments où son père lui manifestait de l'attention, c'était pour la frapper. Autrement, son père ne la voyait pas. Il ne se voyait pas. Mais le seul moment où ils avaient une interaction, un contact, c'était pour la maltraiter, pour la faire souffrir, pour l'humilier. Et donc, elle se retrouvait à aller en fugue, à errer de gauche à droite, à chercher à pallier à ce manque. Et vous savez, dans cette recherche-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on tombe maintenant dans la prison du diable. Parce qu'en errant comme ça, elle dit qu'elle est tombée dans une prison dorée. C'est ça son terme. Je suis tombée dans une prison en or. Mais dans cette prison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'alcool. Il y a les soirées, vous savez, tout va ensemble. Soirée, alcool, parce que comme les gens disent, quand il n'y a pas d'alcool dans une soirée, c'est une soirée triste. Alors c'était soirée à gauche, soirée à droite. Elle dit, je vivais mon instant de liberté, bien aimé, l'instant de liberté. Un jour, tu en seras esclave. Et un jour dans une soirée, vous savez, il y a l'alcool. L'alcool ne va pas sans la drogue. Elle a commencé à prendre la drogue, à fumer du cannabis. Mais finalement, c'est pas assez fort. Elle passe au-dessus. La cocaïne, le crack. Et toujours dans ces soirées-là, il y a, vous savez, tout le monde n'est pas bien intentionné. Il y a des gens qui vont vous mettre quelque chose dans votre verre et c'est ce qui s'est passé pour elle. On a mis une substance dans son verre. Et là, tu es gay, tu danses. Tu dis, je suis libre, je suis tranquille, je suis bien. Je m'amuse, on est jeune. Allez, profitons de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Il faut en profiter. Mais là, quelqu'un de malveillant avait mis quelque chose qui fait qu'elle a perdu sa tête. Elle se retrouvait dans un endroit le matin sans comprendre. Mais elle a compris. Elle a compris ce qui s'était passé. Et elle dit, depuis ce jour-là, je me suis senti sale, humilié parce qu'on avait abusé de moi. Ces gens qui étaient censés partager la fête avec moi, faire la fête avec moi, ont profité de ma vulnérabilité. Et c'est ça, bien-aimé. Les gens ne tombent pas dans cette situation par plaisir, non. Et là, vous savez, c'est un engrenage. C'est pour ça qu'elle parle de prison dorée. C'est une prison. Mais une prison en or où tu t'enfermes. Tu rentres dans un système. Avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe, avec l'argent. Parce que finalement, tu dépends de l'argent. Elle dit, vous savez, il m'arrivait de faire 1 500 $ par jour. Mais maintenant, quand le bon sens revient pour travailler comme tout le monde, attends, tu te dis, attends, ce que je gagne en un jour, je vais aller travailler pour me lever tous les matins et gagner ça en un mois. Vous voyez, le calcul est vite fait, hein. L'humain est comme ça. Le calcul est vite fait. Mais elle dit quelque chose. Elle dit à chaque fois qu'elle avait des clients, c'était une partie de son âme qui partait avec ces clients-là. Et finalement, elle se retrouvait comme une loque. Elle se retrouvait comme une serpillière. Elle se sentait mal. Elle voulait arrêter, mais en même temps, elle avait un train de vie à défendre. Elle dit qu'elle a monté son entreprise. Une maison où il y avait des filles qui travaillaient pour elle. Elle savait que c'était mal, mais elle était prise dans cette prison. Bien-aimé, c'est cela. Tu penses être libre. Tu veux t'amuser. Tu veux jouer. Et elle dit qu'un jour, elle a rencontré quelqu'un qui avait l'âge de son père. Mais vous savez, le manque qu'elle a eu de son père fait que tu es toujours à la quête de quelqu'un qui va remplacer ce père. Et elle dit qu'elle était attachée, éperdument amoureuse de cet homme. Mais cet homme l'a battue. Il était violent. Et finalement, il s'est même retrouvé son proxénète. Mais elle dit qu'elle voulait s'en séparer, mais dans le même temps, elle n'avait que lui. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Bien aimé, vous voyez l'engrenage dans lequel elle s'est retrouvée. Mais elle dit que sa grand-mère lui parlait de Jésus. Sa grand-mère mourante lui disait, écoute, pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Dieu te cherche, Dieu t'appelle, ne lui tourne pas le dos. Elle dit, j'ai pas le temps de tout, ça ne m'intéresse même pas. Et quel Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Mais avec cet homme-là, elle a eu 4 enfants. Et ils ont fini par se séparer. Et venait maintenant la question de la garde d'enfants. Alors elle se disait, bon, moi je n'ai aucune chance parce que moi, je suis prostituée. Donc dans tous les cas, les enfants iront avec leur père. Mais leur père est un drogué aussi, alcoolique. Alors sa crainte c'était que le père puisse abuser aussi des enfants. Alors elle dit, ce jour-là, j'ai écouté le conseil de ma grand-mère. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, je te demande juste une chose. Si tu m'accordes, lors du jugement, la garde de mes enfants, alors je deviens chrétienne. Et vous savez, elle dit, une semaine après, elle lit l'article d'un journal. On parle d'une dame qui travaille dans le milieu de la nuit, prostituée, qui a obtenu la garde exclusive de ses enfants. Alors, elle est étonnée, elle se dit, mais ah bon? Donc c'est possible, parce que sa crainte c'était, si le tribunal, parce qu'elle savait que le tribunal était au courant de ses activités, elle avait caché, elle disait qu'elle travaillait, qu'elle faisait du business, mais elle avait caché ce qu'elle faisait réellement. Elle savait que si elle disait qu'elle était prostituée, ben, elle n'aurait pas la garde d'enfants. Alors, en lisant l'article, plus loin, en fait, il s'agissait d'elle. On donne son nom. En fait, elle a appris ça par la presse. Alors, elle se précipite, elle appelle son avocat pour dire, voilà, j'ai gagné le procès. Et son avocat dit, oui, mais j'ai pas eu le temps de t'appeler parce que j'étais en audience pour une autre affaire. Mais effectivement, tu as obtenu la garde exclusive de tes enfants. Et c'est comme ça que cette femme s'est convertie et elle allait maintenant dans les rues voir ses anciennes collègues pour leur parler du Seigneur. Bien-aimé, c'est ça que Jésus fait. Revenons maintenant à notre histoire. Parce qu'on a parlé de la prison dorée. Rahab, la prostituée. Mon premier point, c'est celui-ci. C'est que Rahab, c'est peut-être toi. Rahab, c'est peut-être moi. On dit Rahab, la prostituée. Mais on pourrait dire aussi Michel, le voleur. On pourrait dire aussi Jean-Jacques, l'hypocrite. On pourrait dire aussi, je donne des prénoms comme ça au hasard qui ne sont pas ici, Martin, l'escroc. Dans tous les cas, bien-aimés, c'est une prison dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu es tombé. C'est un engrenage où c'est difficile d'en sortir. Parce que tu te dis de toutes les façons, je suis déjà comme ça. C'est peut-être Marc, l'hypocrite. Celui qui joue un double jeu. Qui passe pour chrétien. Alors qu'en secret, il sait qu'il ne l'est pas. C'est peut-être Jean. Le nerveux. C'est peut-être ça ton problème. C'est peut-être un tel, le moqueur. C'est peut-être un tel encore, l'orgueilleux. Alors, nous, dans notre tête, on se dit, oui, mais prostituée, c'est quand même au-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui vend son corps. C'est quelqu'un qui se déshonore, bien aimé, devant le Seigneur. Le péché reste le péché. Et la conséquence du péché, c'est l'esclavage. Et cet esclavage produit la mort. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas bien. Vous savez le témoignage de cette femme dont je parle. Elle dit qu'elle gagnait 1 500 $ par jour, vous vous rendez compte? Moi, en tant qu'éducateur, on a eu affaire, et encore aujourd'hui, des jeunes filles de 15 ans, prostituées. Ici à Rouen, ça existe, il y en a beaucoup. Quelqu'un qui vous dit, vous éducateur, moi votre salaire, je le fais en 2 jours. Une jeune de 15 ans qui vous ramène des iPhone 12 à 1 300 €, elle en a 3 ou 4. Alors quand les autres voient ça, elles sont tentées aussi. Parce que nous, on a des échos, parfois elles se balancent entre elles. On dit, tiens, il y a telle qui parle à telle, parce qu'elle veut faire aussi la même chose. Parce que ça attire. Parce que c'est l'argent facile. Mais à quel prix? À quel prix? Rahab, c'est toi aujourd'hui. Mais ce qui est bien avec Rahab, c'est que cette femme prostituée a été sauvée. Et vous savez, Rahab était sur la muraille de la ville. C'est ça mon deuxième point. Premier point, on a dit Rahab, c'est toi. Vérifie ta vie. Qu'est-ce qui est en toi? Peut-être la colère. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Le Seigneur peut te délivrer. Et mon deuxième point, c'est la muraille de Jéricho. Vous savez, la muraille de Jéricho, c'était une muraille qui était grande. Je ne me rappelle plus, je crois, en longueur. Ça devait être peut-être 6 mètres, 8 mètres en longueur. Mais c'est pas ça qui... Ce qui m'impressionne, c'est la largeur, l'épaisseur. L'épaisseur de la muraille était environ 6 mètres. Vous vous rendez compte? Rien que l'épaisseur de la muraille. Environ 6 mètres. Donc autant dire que pour qu'une muraille comme ça, donc tu viens avec la perceuse, avec tout ce que tu veux, mais je peux te dire que ils ont le temps de t'atteindre. Qu'est-ce que je veux dire par la muraille de Jéricho? C'est que Rahab était finalement dans cette prison, elle-même dans sa prison dorée de la prostitution, mais prisonnière de la ville elle-même avec une grande muraille, de sorte que tu ne peux sortir de cette ville-là par toi-même. C'est ça, bien-aimé. Et la muraille de Jéricho représente quoi pour toi aujourd'hui? C'est que le péché dans lequel tu te trouves est tellement grand, tellement insurmontable, tellement fort que tu te dis, je n'ai pas le choix que d'y succomber. Le péché dans lequel je me trouve est tellement fort qu'il me submerge. C'est ça la réalité, bien-aimé. Il n'est pas possible d'en sortir. C'est trop difficile pour moi. La muraille de Jéricho te dit quoi? C'est que ce n'est pas possible d'envisager une autre vie. Ta vie est comme ça. J'écoutais le témoignage d'un homme, un homme de Dieu. Il raconte son témoignage, il dit, vous savez, les jeunes, les activités, foot, tout ça, sport, il faisait du foot. Et dans ses activités avec ses copains, avec ses amis, il parle de pornographie, il parle de toutes ces choses-là. Et il dit qu'il est tombé dans la pornographie. Alors ce jeune, lui-même il témoigne, il dit, moi qui présentais bien, moi qui étais bon chrétien, zélé, tout ça, au fond de moi, il y avait une muraille qui était trop grande. Difficile de m'en séparer. J'étais esclave de la pornographie. Il dit, à chaque fois que je prends la décision, je demande l'aide au Seigneur en disant, c'est fini, c'est terminé. Il dit, la décision ne dure pas. Quelques jours après, je retombe encore. Et il dit qu'il est malheureux. Il est misérable. Bien-aimé, c'est un exemple. Mais c'est peut-être autre chose pour toi. Mais tu es là peut-être ce matin. Tu souffres au fond de toi. Tu es là ce matin. Tu es triste au fond de toi. Lisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Le Seigneur veut nous délivrer. Romains chapitre 7. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Lisons ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul dit, je sais que la parole de Dieu est véritable. Elle est vraie, parce que c'est Dieu qui parle. Mais il dit, ma chair à moi est vendue au péché. Il s'explique, car, verset 15, c'est un peu technique ce qu'on va lire, mais on va expliquer par la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Il dit qu'il y a un problème. Je sais ce qui est bien. J'ai envie de faire ce qui est bien. Je sais aussi ce qui est mal. Mais en réalité, ma chair, mon corps, a toujours une attirance pour ce qui est mauvais. Et finalement, c'est comme s'il y a une contradiction. Donc je ne sais plus ce que je fais. Je suis comme un animal. Mais c'est là qu'on parle de la prison, de l'esclavage. Il dit, or, verset 16, « Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, la parole de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Il dit, « Puisque le péché est en moi, donc finalement, ce n'est plus moi qui vis, c'est le péché qui me domine. » Bien-aimé, vous vous rendez compte? Un homme grand, un homme fort, intelligent soi-disant, mais dominé par son propre péché. C'est ce qui fait quoi? C'est ce qui fait qu'on voit des gens qui vont s'en prendre à des petites filles. On va lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tu vas aller en prison? Il dit quoi? C'était plus fort que moi. J'ai eu une pulsion. C'était plus fort que moi. C'est ça que Paul est en train d'expliquer. Il dit qu'il y a un problème. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit, j'ai la volonté, j'aimerais bien faire le bien, mais le péché en moi est comme une muraille. Il est tellement grand, insurmontable. Même si je prends la décision aujourd'hui de dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de mentir. Je vais dire la vérité. Mais il y a le raisonnement qui me dit, ah bon, tu vas dire la vérité, toi? Arrête. Mais arrête. Tout le monde te connaît. En plus, si tu dis la vérité, mais... Donc tu te rends compte que tous ceux à qui tu as menti vont te tourner le dos. Parce que finalement, t'es un escroc. T'es un mauvais. On continue comme ça. Ah, de toutes les façons, on est tous mauvais. Vous voyez, le raisonnement dans lequel le diable t'enferme. Il dit, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. » Qui est dans mes membres, verset 24, que j'aime beaucoup, il dit, misérable que je suis misérable. Qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà l'inquiétude de Paul, mais c'est l'inquiétude de tout humain, bien-aimé. Tu te retrouves dans ta situation comme entouré par une muraille insurmontable, tellement grande. Tu te dis qu'il n'y a pas de solution. J'ai tout essayé. J'ai demandé la prière à ce frère-là chrétien qui témoigne en disant qu'il est tombé dans la pornographie, en rigolant avec les amis, en causant avec les amis après le foot. Aujourd'hui, avec des smartphones, tout est libre d'accès. Il dit qu'il était esclave de la pornographie tous les jours. Et un jour, il va se confier à un frère de l'église, un jeune comme lui aussi qui est dans le même club de foot. Il dit, regarde, j'ai un problème. Prie pour moi parce que le frère lui dit, ah bon? Mais moi aussi j'ai le même problème. Il dit, ah bon? Ben, finalement, je me rends compte que je ne suis pas seul. Que l'autre aussi a le même problème que moi. Bien-aimé, c'est cela. La muraille est tellement haute. Paul dit, qui peut me délivrer de ce corps de péché? Tu prends la décision d'arrêter. Mais il y a quelque chose en toi qui te pousse à continuer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, bien-aimé. Mais, troisième point, Rahab, bien qu'étant dans cette muraille, vous savez, sa maison était vraiment sur le mur, dans le mur même de la muraille, à l'entrée de la ville, elle réalise que la ville est en danger. Elle réalise que l'état dans lequel elle se trouve va la conduire à la mort. Elle réalise que si elle reste dans cette ville telle qu'elle, les espions, Israël, après avoir envoyé les espions, viendra pour ravager Jéricho. Elle réalise sa situation. Et elle décide de sortir de cette situation-là. Elle refuse, bien-aimée, de rester dans ce monde de Jéricho où elle était. Vous savez, c'était une ville fortifiée, une belle ville. Et cette muraille faisait la fierté de Jéricho. Donc eux, ils pouvaient combattre les autres. Mais les autres ne pouvaient pas accéder à leur ville parce qu'elle était tellement fortifiée. Mais malgré cela, Rahab décide de sortir de cette ville en demandant de l'aide. Elle décide de sortir de ce monde dans lequel elle se trouve. La question aujourd'hui, dans quel monde veux-tu vivre? Dans le monde où tu es aujourd'hui? Dans le monde du péché? Dans le monde de la pornographie? Excusez-moi le terme, il y a des enfants, mais on va parler pour que tout le monde comprenne. Dans le monde de la masturbation? C'est dans ce monde que tu veux rester? Ou alors tu prends conscience aujourd'hui de dire non, je veux être délivré. Rahab a pris conscience. Elle a compris que la ville allait être dévastée. Lisons verset 8 ce qu'elle dit. Verset 8, voilà ce qu'elle dit. Au chapitre 2, toujours Josué. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux. Donc les espions étaient sur le toit de sa maison. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc Rahab, qui était prostituée, a entendu qu'Israël va attaquer Jéricho. Elle a entendu que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu et que le peuple d'Israël est redoutable. Pourquoi on le sait? Elle le dit. 10. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous les esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, elle dit, Maintenant, je vous prie, pardon, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi de l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. C'est ça notre troisième point, bien-aimé. Rahab a compris que si elle reste dans cette ville telle qu'elle, elle va mourir. Si tu restes dans ton péché, bien-aimé, tel quel, ce péché produira la mort. Regarde-toi, est-ce que tu es bien? Le mensonge dans lequel tu es, la duplicité dans laquelle tu te trouves, la colère qui te mine, est-ce que tu es heureux? Tu diras, oui, mais bien sûr, ça va. Ça, c'est devant les humains. Mais au fond de toi, tu es triste. Tu aimerais arrêter avec le vol. Mais tu donnes toutes sortes d'excuses. Tu donnes toutes sortes d'arguments. Je me rappelle une jeune qu'on a actuellement qui a tendance à prendre tout ce qui traîne. Et du coup, tous les autres jeunes se liguent contre cette fille. À juste raison, parce que les AirPods, les téléphones, tout ce qui traîne, on retrouve ça dans sa chambre. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un qui vole, mais qui met tout dans son bureau, dans sa chambre. C'est ça qui est étonnant. Même les autres jeunes disent, mais généralement, quand tu voles comme ça, tu vas vendre, tu vas... Comme ça, c'est ni vu ni connu, on ne sait pas qui c'est. Mais elle prend... Elle met ça sur son bureau. Et un jour, elle parlait avec une autre. Elle dit, mais on m'accuse, mais c'est pas... Et l'autre lui dit, oui, mais regarde le bracelet que tu as là. Quand tu parles, là, regarde le bracelet. C'est mon bracelet. Je l'avais laissé dans ma chambre, c'est toi qui l'as pris. Elle dit, eh ben, excusez-moi, je sais pas. Quand c'est comme ça, il faut me dire parce que moi, je me rends pas compte de ce que je fais. Alors je sais pas, moi je ne suis pas spécialiste pour savoir si elle se rend compte ou pas. Mais je dis quand même qu'il y a un problème. Parce que les spécialistes vont vous dire. Hein, elle est, comment on appelle ça? Il y a un terme, kleptomane, voilà. On va vous dire que c'est quelqu'un qui vole, mais... parce que c'est plus fort qu'elle, mais en réalité, elle n'a pas conscience de son acte. Vous savez, les spécialistes, les bien-aimés, vous savez, on dit en français, hein, en voulant expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable. On va toujours trouver, vous savez, ce monsieur-là, il est devenu bandit parce que, oh là là, son enfance a été douloureuse. Vous savez, il n'a pas eu de câlin quand il était petit. À la place du câlin, c'était une gifle qu'il avait. Alors, je ne dis pas que toutes les explications ne sont pas fondées, mais bien aimé, la vraie explication, c'est que tout homme a besoin de Jésus. C'est le péché qui rend l'homme mauvais. Parce que tu as beau donner toutes tes théories, toi-même qui donnes des théories, tu es esclave. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et ça ne rend pas heureux. Et Rahab savait que la situation dans laquelle elle se trouvait, c'était la mort. Voilà pourquoi il dit à ses espions, nous savons que vous allez venir et que cette ville de Jéricho sera vouée à la mort. De la même manière que vous avez agi, que vous avez dévoué par interdit les rois des Amoréens. Il dit, vous ferez de la même chose avec nous. Alors, de grâce, souvenez-vous de moi. Bien-aimé, c'est cela. Et nous arrivons à notre quatrième point. C'est que, vous savez, dans la situation où tu te trouves, tu as besoin d'un secours extérieur pour te sauver. C'est ça les deux espions qui sont venus. Comment Rahab allait se sortir de cette situation? Il aurait fallu que des gens viennent chez elle pour garantir et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'avantage de Rahab, c'est quoi? C'est que non seulement sa ville était sur la muraille, mais l'avantage de Rahab, c'est que Elle était prostituée. Et en tant que prostituée, les gens pouvaient entrer chez elle incognito. Et elle a profité de cette situation pour s'agripper sur la grâce de Dieu. C'est ça. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le péché dans lequel tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves, seule l'intervention du Seigneur peut t'en délivrer. Et c'est ça le but de notre exhortation aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit le premier point, que Rahab, c'est nous tous. Mais nous, dans notre tête, on se dit, oui, le péché sexuel, il est plus grand. Non ! Devant Dieu, tout péché est péché et conduit à l'esclavage. De Pierre nous dit que celui qui commet le péché devient esclave de ce qui est maître de lui. Et vous savez, un esclave est malheureux. Un esclave n'est pas heureux. Un esclave ne dirige pas, il ne décide pas. Un esclave, parfois, va être amené à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Vous savez, ici, en Occident, on ne connaît pas les histoires de, parfois, domestiques. Bon, domestique, ce n'est pas esclave. Quoique dans certains pays, encore aujourd'hui, il y a des domestiques qui... Des domestiques, ce sont des gens qui vivent chez le patron et qui sont à la merci du patron. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, pour ceux qui ont les moyens, ils ont des hommes comme ça, de main ou de femme de main. Et pour avoir vécu ça de près, la personne vit à la maison. C'est-à-dire, elle a peut-être une petite dépendance, une chambre, mais elle travaille. Vous savez, nous, ici, c'est combien, 34, 35 heures par semaine. Mais là, c'est... allez, on va être gentil. 23 heures sur 24. Parce que quand on a besoin de ci, on dit, allez, tiens, allez appeler un tel. Tiens, il y a besoin de faire à manger, allez, va faire à manger. Il y a besoin d'aller au marché, tiens, va au marché. Il y a des visiteurs qui arrivent, tiens, fais ceci. Tiens, donc, et parfois même, j'ai vu même ces personnes-là bouder. Mais c'est ton travail, malheureusement. Et puis tu te dis, bon, si je refuse ce travail, j'irai où? Qu'est-ce que je veux faire après? C'est ce travail-là qui me donne du gagne-pain, le gagne-pain. Et parfois, tu vas faire des choses malgré toi. Tu es triste, mais tu le fais quand même. C'est ça l'esclavage, bien-aimé. Et la délivrance ne peut venir que de l'extérieur. Comme Rahab a vu ces espions et s'est dit, ah, là c'est la chance de ma vie. Ces espions qui sont là, ce sont eux qui vont me délivrer de la prison dans laquelle je me trouve. Parce qu'après tout, c'est la mort qui arrive. Et moi, je ne veux pas mourir. Et puis, je vous demande une chose. J'ai été gentil avec vous. J'ai pris le risque de vous accueillir. Vous savez, on a vu ça dans Béréal l'explorateur, hein, quand on a étudié ce texte. On nous a dit une chose, c'est que Rahab a accepté de trahir sa nation. Je fais une parenthèse, après on va revenir sur l'intervention des espions. Mais Rahab a trahi sa nation. Rahab a trahi son peuple. Vous voyez, quand on a lu au début, le roi envoie des gens pour lui dire, fais-nous sortir des espions. On a entendu qu'il y a des espions qui sont venus dans ta maison. Les gens lui dirent ça. On a entendu qu'il y a des gens qui sont venus chez toi. Et Rahab dit oui. Mais ces gens sont partis, je ne sais pas par où ils sont passés. Mais en faisant cela, bien-aimée, elle a pris un risque, un grand risque. C'était de se faire tuer. Toi, tu trahis ta nation, tu trahis ton pays. Bien-aimée, Rahab est un exemple pour nous montrer que venir au Seigneur nécessite de trahir ce que nous sommes. Venir au Seigneur nécessite de trahir ce que tu penses être. Quoi? Tu es intelligent? Considère que ton intelligence ne vaut rien du tout. Tu es fort? Considère que ta force est une faiblesse. Tu tiens à quoi? Ton nom de famille? Tu es de telle famille? Considère que ton nom de famille n'est rien du tout. Sache que si toi tu as un nom de famille, il y a aussi d'autres noms de famille. Il y a les Rothschild, il y a les Hino, il y a les Dassault. Il y a des noms qui sont plus grands que toi. Alors tu veux t'accrocher à quoi? Rahab a pris le risque. Elle a trahi ce qu'elle était. Tu dis quoi? Je suis trop jeune. Il faut que je profite de la vie. Faut que j'ai des... C'est normal, attends, 15 ans, 16 ans. Il faut que j'ai une petite chérie quand même. C'est normal. Mais comme on dit, l'histoire qu'on a racontée, cette jeune qui se disait je suis libre. Il faut que je goûte quand même, il faut que j'aie une expérience. Il faut que je sache quand même ce que c'est d'embrasser quelqu'un. Il y en a qui ont essayé, qui sont devenus esclaves de cela. Mais non seulement tu tombes dans ces bêtises, mais tu tombes sur quelqu'un qui se moque de toi, qui s'amuse avec toi. Et tout ça, ça tue, ça détruit. Rahab a trahi ce qu'elle était. Et venir au Seigneur nécessite de trahir parfois. Je suis jeune, oui, mais je vais vivre en me préservant. Être jeune ne justifie pas de déshonorer le Seigneur. Être jeune ne justifie pas de vivre dans la dépravation. Je suis jeune, certes, mais je vais utiliser ma jeunesse pour honorer le Seigneur. C'est ce qu'elle a fait, cette femme. C'était un risque parce que imaginez que les espions soient trouvés dans sa maison. Qu'est-ce qu'on lui aurait fait? Vous pensez qu'on lui aurait dit, bon, c'est pas bien, c'est pas gentil. Ah non, on l'aurait tué. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en Occident. En France, aux États-Unis, quelqu'un qui trahit son pays, surtout aux États-Unis, eux, ils rigolent pas. Hein. Tu trahis ton pays, c'est la prison à vie. On a vu certaines histoires où WikiLeaks, tous ces gens-là qui ont travaillé dans les services secrets américains, qui ont divulgué les secrets, ils sont recherchés. Donc Interpol, partout, FBI, on te recherche parce que tu as trahi l'intérêt supérieur de la nation. Et si on t'attrape, on ne te fera pas de cadeau. C'est du sérieux. Alors, vous rendez compte, si ces pays-là fonctionnent, même la France, imagine que tu sois quelqu'un de service secret, tu vas vendre des informations aux Russes. Mais si on t'attrape, je peux te dire que des gifles, tu en auras. Pays de droit, tout ça, il n'y a pas. Parce que tu as trahi le pays. Et Rahab a fait cela en accueillant ces gens-là. Maintenant, je vais finir en disant, vous savez, ces deux espions-là qui sont venus pour sauver Rahab et sa famille, c'est l'image de qui? De Jésus-Christ. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'il y a une histoire de périr. Il y a une histoire de mort. Il y a une histoire de vie ou de mort. Et le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit que la délivrance doit venir de l'extérieur. De la même manière que tu as un problème, tu es lié. La Bible dit dans Apocalypse 3:20 que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Il te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer comme ça? Tu veux continuer à te détruire? Tu veux continuer à souffrir? Tu veux continuer à vivre dans la culpabilité? Tu veux continuer à vivre dans le péché? Et vous savez, la nature humaine n'est jamais satisfaite. Jamais satisfaite. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas monter, tu vas descendre. Il y a des gens qui font le tour du monde, mais vous savez, tout ça, ça ne finit pas. Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? L'Ecclésiaste nous dit que toutes tes poursuites, du vent. Toutes tes poursuites du vent. C'est cela, bien-aimé. Alors réalise ton état. Pour que cette femme Rahab, la prostituée, demande à être sauvée, c'est parce qu'elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle a demandé de l'aide. Elle a dit à ses espions, « Aidez-moi. On va signer un contrat. Moi, je vous reçois chez moi avec le risque de mourir, mais en retour, je sais que votre Dieu vous donnera la victoire. Alors, pensez à moi. » Les espions lui disent quoi ? Nous ferons tel que tu as dit. Et nous te sauverons non seulement toi, mais nous sauverons aussi ta famille. Vous vous rendez compte, dans ses activités mauvaises, peut-être que sa famille l'a rejeté. Parce que quelle famille va se glorifier de dire, ah, tu sais, nous, notre grande sœur ou notre petite sœur est prostituée. Qui ? Qui va se réjouir de cela ? Personne. Même si tu as de belles voitures, tu as une belle montre, tu as un dernier téléphone, mais tu vas dire aux gens, non. Tu vas dire qu'elle fait du business, elle fait des affaires. C'est honteux, humiliant. Mais j'ai pris cet exemple pour nous montrer que le Seigneur est capable de prendre quelqu'un de la pourriture. Comme vous savez, le psaume dit, hein, de la poussière, tu prends le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. C'est ce que nous étions. Il y a un chant qui dit « Out of ashes, we rise ». Donc, au milieu des décombres, des décombres, ashes, c'est la ruine. Au milieu de la ruine, tu nous prends et tu fais de nous des humains. Bien-aimés, c'est ça. Ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus, aujourd'hui, est à la porte, il frappe. Pourquoi tu résistes ? Tu dis, j'attends encore un peu. J'ai encore le temps. Mais pendant ce temps-là, tu es toujours esclave. Pendant ce temps-là, tu meurs à petit feu. Pendant ce temps-là, la mort peut te frapper aussi. La mort peut te frapper. En sortant d'ici, tu peux croiser la route de quelqu'un qui te poignarde. De quelqu'un qui a sa voiture, qui est alcoolisé, parce qu'on est quoi ? On est dimanche aujourd'hui. Non, les clubs sont fermés. Non, mais il y a quand même des fêtes sauvages. Donc il a fait une fête sauvage hier. Tu crois sa route, il te roule dessus. Et tu meurs. Tu iras où ? Le secours vient de Dieu. De la même manière qu'il a envoyé ses espions pour cette femme. De la même manière, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver aujourd'hui. Et Jésus, dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour délivrer les captifs. » Nous allons finir avec ce verset, Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4. Luc 4, verset 18. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, le péché, ça brise ton cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance, le péché te rend esclave. On a dit, comme cette femme témoignait, j'étais dans une prison dorée. On voit Hollywood, on voit les acteurs de Hollywood, on voit Whitney Houston, morte d'overdose. Michael Jackson, mort d'overdose, propofol. Prince, la même chose. George Michael, tous ces gens que je cite là, peut-être que vous ne connaissez pas, les jeunes ne connaissent pas. George Michael, mais c'était des voix, mais terribles. Retrouvé mort. Et vous savez, il a tout essayé. Il a eu des mannequins, il a eu des blondes, il a eu des brunes, il a eu peut-être des rousses, j'en sais rien. Et à un moment, il a même changé de bord, il est devenu homosexuel. Bien aimé. Mais vous savez, le péché au fond de toi fait que, comme certains disent, moi je suis bi, parce que je me cherche encore. Cherche, continue à chercher. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et Jésus est venu pour délivrer les captifs. C'est ça la vérité. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Le péché te rend aveugle. Tu ne vois plus. Tu mens, mais tu es persuadé que tu es fort. En mentant, tu te dis, oh là là là, j'ai bien menti là. Je suis trop fort. J'ai témoigné de ça une fois, un ancien collègue, lorsque j'étais hébreu. En tout cas, il mentait, mais le gars, le monsieur, il a atteint un niveau, mais terrible. Sans scrupule. Mais un jour, il dit à l'un, au collègue, hein, je viens te chercher, on va sortir. Vous savez, il est grand, très grand. Et il a fait du basket, mais même pas à niveau amateur. Et il dit à tout le monde que je suis basketteur. Et il a son cousin aussi qui était en équipe de France. Et donc lui, il se fait passer pour un basketteur de l'équipe de France, tout ça. Alors il dit au collègue, bon, je viens vous chercher, on va sortir, on va à Rouen. Donc c'était Évreux. Donc il appelle un collègue, deux collègues, trois collègues. Il dit, bougez pas, je viens vous chercher. Alors ce jour-là, pas de chance pour lui. Les trois collègues étaient ensemble au travail à Évreux. Donc, le collègue attend, il dit, mais il prend le téléphone, il dit, mais t'es où? Il dit, j'arrive, là, je suis au péage de quand tu viens d'Évreux vers Rouen, je suis au péage, j'arrive. Le deuxième, mais il ne sait pas que les trois sont là ensemble. Le deuxième appelle, t'es où? Il dit, je suis à la Madeleine, je descends la côte. Le troisième appelle, il dit, je suis à Rouen, là, j'arrive dans les hauts de Rouen. Et puis, mais vous savez, le troisième a mis le haut-parleur, il dit, écoute, arrête de te moquer de nous, on est là tous les trois. Oh. Mais vous savez, il arrive comme un chat à retomber sur ses pattes. Je ne sais pas ce qu'il a sorti comme... Mais bien-aimé, vous voyez, là, tu es pris la main dans le sac. Mais il y a des gens, ils sont tellement courageux. Pris la main dans le sac, il dit non, ce n'est pas moi. Ou alors, c'est moi, mais je suis, comme on a dit, kleptomane, c'est ça? J'ai fait sans savoir que c'est moi. Attends, fais ça en Afrique, tu vas voir comment on va te... Vous savez ce qu'on fait des voleurs en Afrique? C'est dur à dire. Hein. Dans les marchés, qui connaît? Comment? On fait comment? Non? En Afrique, comment on fait? En tout cas, en Afrique centrale, on met un pneu, deux pneus, trois pneus et on brûle. On te brûle vivant. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est ça la réalité. Et Jésus dit que je suis venu pour ouvrir les yeux à ceux qui sont aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Comme on a dit, tu es enchaîné, tu es lié. Qui me délivrera? Pour publier, verset 19, une année de grâce de Dieu, du Seigneur. Vous savez, l'année de grâce, la grâce c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. La grâce est un cadeau qu'on te donne, mais qui ne vient pas de tes efforts. Tu es mauvais, Dieu sait que tu es mauvais, mais il vient, il dit, oui, certes, tu es mauvais, mais puisque moi je suis bon, je te considère aussi comme quelqu'un de bon. Alors à partir d'aujourd'hui, accepte le cadeau que je te donne. C'est ça, bien-aimé, la grâce de Dieu. Rahab a bénéficié de la grâce de Dieu. Et elle a accepté cette grâce-là. Et c'est ça que le Seigneur nous propose aujourd'hui. De recevoir sa grâce. Voilà une femme prostituée. Voilà une femme légère. Voilà une femme aux mœurs débridées. Voilà une femme perdue certainement. Voilà une femme qui n'était pas heureuse. Vous savez, dans Jean 4, Jésus parle à cette femme samaritaine. Il dit, ramène ton mari. Elle dit, mais celui que j'ai, c'est... Elle commence à bégayer. Jésus dit, oui, tu as raison. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu en as eu 5. Et l'autre, c'est le 6e encore. Mais tu n'es pas heureuse. Il dit, moi, Jésus, je peux te donner la vie. Alors Jésus commence à parler à cette femme. La femme est là, elle regarde Jésus. Elle dit, oh, elle va courir dans la ville pour dire, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de moi. C'est ça ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. De la même manière que cette femme qui te représente toi, qui me représente moi, avec ton problème. Le Seigneur veut nous faire entrer dans sa lignée. Et vous savez, cette femme est devenue l'ancêtre même, une des grands-mères d'un des grands rois d'Israël. Lequel ? C'est pour ceux qui lisent la Bible. David. Cette femme prostituée, vous vous rendez compte ? Est devenue par la suite. Il y a eu Salomon, il y a eu Obed, il y a eu Ruth avec Boaz, et finalement, on arrive jusqu'aux ancêtres du roi David. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur fait. Et la promesse que ces hommes ont fait, quoi ? Ils ont dit, nous te sauverons toi, mais nous sauverons aussi ta famille. C'est ça que le Seigneur veut faire. Jésus, en te sauvant toi, tu entres dans sa lignée, mais il est prêt aussi à sauver toute ta famille. Tous ceux qui viennent après toi, avec toi, Jésus veut passer par toi. Mais prends conscience de ta situation. Réalise que ton problème, c'est comme une muraille qui est tellement grande que seul Dieu peut intervenir. C'est ça la réalité. Vous savez, quelqu'un qui est en prison, en tout cas, s'il arrive à se sortir de la prison par lui-même, il est très fort. C'est très rare. Mais beaucoup d'évasions qu'on entend même ici en France, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des complices. On a vu dernièrement, je ne sais pas si on se rappelle, hein, certains qui sont venus avec un hélicoptère carrément. Je ne sais pas comment ils ont fait dans un film de science-fiction. Hélicoptère, ils viennent, ils ont braqué le monsieur qui avait l'hélicoptère. Ils ont pris l'hélicoptère, ils sont arrivés à la prison. Ils ont pris leur ami, ils sont repartis, ils ont brûlé l'hélicoptère, ils ont pris une voiture. Mais c'est ça, le secours ne peut venir que de l'extérieur. Et ce secours-là vient de Jésus aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Tu t'es reconnu dans la vie de cette femme, Rahab. Tu connais ton problème aujourd'hui. Tu connais ta souffrance aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est là. Il frappe. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce aussi, Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as pu sauver, Seigneur, cette femme qui était dans le péché. Une femme prostituée. Peut-être méprisable aux yeux des humains, comme l'a été Zachée autrefois, qui était esclave de l'argent, qui pour s'enrichir a dû escroquer, a dû mentir, a dû parfois même menacer des personnes pour garder son train de vie. Mais Seigneur, Zachée était triste en lui-même. Et le jour où tu es rentré dans sa maison, il a compris que le salut est entré dans cette maison-là, Seigneur. De la même manière que cette femme Rahab t'a vu entrer dans sa maison, Seigneur, elle a compris que le salut de l'Éternel, le Dieu d'Israël, passait par ses espions. Et elle a fait alliance, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides ce matin. Nous prions pour que tu nous aides. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont des Robert, le dépressif. Peut-être que parmi nous, il y a des Michael liés à l'impureté. Seigneur, tu as pu sauver Rahab, cette prostituée. Tu as pu sauver Zachée le voleur. Tu as pu sauver ce brigand à la croix, condamné. Seigneur, nous croyons que tu peux sauver encore aujourd'hui. Merci parce que, Seigneur, Jésus, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Nous bénissons ton nom. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint
pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés.
Esprit du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur.
Oh, est sur moi
et il m'a oint
pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Oh, proclamez la délivrance.
Seigneur, nous voulons être délivrés, Seigneur. Le recouvrement, Seigneur, de la vue.
Le recouvrement de la vue.
Seigneur, délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes opprimés, Seigneur.
Renvoyez en liberté les opprimés. Publiez une année de grâce de Dieu.
Oh, l'Esprit du Seigneur.
Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs.
Encore l'Esprit du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer la délivrance.
Oh, oh,
recouvrement de la vue
et
renvoyer en liberté les opprimés, publier une année de grâce de Dieu.
Seigneur, nous croyons, Seigneur, que, Seigneur, tu veux nous délivrer, Seigneur. Même si devant les humains, nous passons pour des hommes libres, Seigneur, tu sais au fond de toi, Seigneur, toi qui vois nos cœurs, toi qui sondes nos reins, tu sais que nous sommes esclaves, Seigneur. Nous venons, Seigneur, réclamer ton aide aujourd'hui. Que l'histoire de cette femme, Rahab, Seigneur, soit un témoignage pour nous. Que l'histoire de cette femme, Rahab, soit une leçon pour nous aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions voir, Seigneur, au travers de cette histoire, ton amour pour sauver le plus vil des pécheurs, Seigneur. Seigneur, merci d'agir. Merci de parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, de convaincre tous ceux qui pensent se sauver par eux-mêmes. Ce matin, nous avons vu que le salut vient de toi, Seigneur. Parce qu'en réalité, le péché est comme une muraille tellement forte, comme une mer, un humain qui nage au milieu de l'océan. Il va finir par couler, même si c'est un bon nageur, parce que l'océan est tellement immense, tellement profond, tellement large. Seigneur, pour en sortir, nous avons besoin d'une aide extérieure. C'est toi qui nous tends la main ce matin, Seigneur, pour nous sortir de notre péché, pour nous donner la véritable vie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.